Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Belinda Bosuma à la présentation.
Bientôt tout Congolais aura sa carte d'identité. Annonce faite par le Premier ministre à l'issue du dernier Conseil des ministres de vendredi, présidé par le chef de l'État. Samalou Kondé a indiqué que les préparatifs se poursuivent en vue de la réalisation de cet important axe du programme d'action du gouvernement. Le président suisse a quitté Bukavu ce matin après 2 jours de visite. Après avoir écouté des témoignages des survivantes des violences sexuelles à l'hôpital Panzi hier, Alain Berset a insisté sur la responsabilité commune de faire changer les choses pour mettre fin à cette souffrance. Et puis, clôture vendredi au Kasaï oriental de la mission de la délégation de l'Agence nationale de l'assurance qualité des institutions supérieures de l'enseignement supérieur et universitaire, ANAC en sigle. C'est une structure publique sous tutelle du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Pour en parler, nous recevons le professeur Constant Kiama, secrétaire exécutif national de l'ANAC. Madame, Messieurs, bonjour. Les Congolais seront en possession de leur carte d'identité d'ici le milieu de cette année 2023. Cette annonce a été faite par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. C'était lors de la 94e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 14 avril à la Cité de l'Union africaine sous la direction du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Plus de détails avec Lesh Walassa.
Dans les comptes rendus faits par le ministre du Numérique, Désiré Kachimir Kolongéré, le Premier ministre a indiqué que les préparatifs en vue de la réalisation de cet important axe du programme d'action du gouvernement se poursuivent. Selon Samalou Kondé, les premières cartes d'identité seront délivrées à mi-2023. Il a attiré l'attention de tous les intervenants dans le processus de mutualisation des opérations, à savoir la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'Office national d'identification de la population ONIP et les bureaux centraux des recensements BCR ainsi que l'Institut national de la statistique INS de jouer chacun son rôle. Pour sa part, le président de la République a annoncé au Conseil la mise en œuvre dans les prochains jours d'un conseil consultatif présidentiel pour le pacte national de l'agriculture et de l'alimentation. Cette structure consultative aura pour principale mission de coordonner la formulation des orientations stratégiques ainsi que d'assurer le suivi des engagements pris par toutes les parties prenantes à ce pacte.
Rendons-nous au Kasaï oriental. Le gouvernement provincial s'en va en guerre contre la hausse des prix des produits alimentaires et manufacturés. Hier samedi, le ministre provincial de l'économie a rencontré les opérateurs économiques à Mbujimayi. Le but de cette rencontre est de connaître les raisons qui sont à la base de la hausse des prix des produits sur le marché de Mbujimayi. Anaclet Mutombo, ministre provincial de l'économie, s'exprime au micro de Esther Dalafina.
Si les opérateurs sont là, c'est pour parler un peu par rapport à la hausse des prix que nous avons constaté sur le terrain exagéré et aussi pourquoi certains sont en train de fermer les dépôts et ne veulent pas vendre le ciment. Pourquoi ? C'est tout autour de ça que nous voulons un peu savoir. Je pense que les opérateurs économiques ont décelé plusieurs cas ou bien problèmes, entre autres les problèmes de transport. Et je viens de vous dire que non, la province est en train de travailler sur ça et je pense bientôt là, la province aura une disponibilité des locomotives et aussi la disponibilité des wagons. Donc il y a déjà une équipe qui est mise en place par l'autorité provinciale pour travailler sur ça. D'ici la fin du mois ou bien le mois prochain, il n'y aura pas de problème de transport au niveau provincial.
Pendant ce temps, le gouverneur de la province de Lomami a lancé vendredi à Kamende les travaux de développement local de 145 territoires. C'était en présence de quelques autorités ainsi que du responsable du groupe d'entreprise ayant gagné le marché auprès du bureau central de coordination BCECO. L'ingénieur Jean-Marie Sapou, gestionnaire de ce groupe, a indiqué qu'il sera question en premier lieu de construire des écoles modernes au chef-lieu du territoire de Kabinda. 2 écoles primaires sont premièrement concernées. Il s'agit de l'école primaire Mesu au Kuishinda et l'école primaire Mutamba. Signalons que bien avant ce lancement officiel du programme de développement local de 145 territoires, quelques travaux de ce projet avaient déjà démarré dans 4 autres territoires de la province de Lomami. Rendons-nous dans la province de l'Ituri. La chambre froide du programme élargi de vaccination PEV Bounia est opérationnelle depuis vendredi à l'hôpital général de Bounia. Selon le chef de division provinciale de la santé en Ituri, ce matériel, avec une capacité de 10 mètres cubes, peut conserver plus de 6000 doses de vaccins pour les enfants de 0 à 12 mois et les femmes enceintes. Docteur Louis Chulo ajoute que cette dotation répond aux besoins de conservation des vaccins de cette entité sanitaire après l'incendie l'année dernière du dépôt du programme de vaccination PEV. Le chef de division provinciale de la santé en Ituri explique l'importance de cette action dans la zone de santé de Bounia. Docteur Louis Chulo est au micro de Martial Kizabiamungu.
Depuis l'année passée qu'il y a eu incendie au niveau de notre bâtiment, on a dû perdre la chambre froide de 30 mètres cubes, y compris les vaccins dedans. C'était une perte et la conservation faisait problème. Autour de l'autorité provinciale, son essence, monsieur le gouverneur, il y a eu des réflexions et les partenaires ont dit mobiliser la chambre froide qui était encore au niveau de Goma pour être ici. Et toujours avec l'implication de son excellence, monsieur le gouverneur, les techniciens de Kinshasa sont venus pour installer la chambre froide à l'endroit que vous trouvez. Après installation, on a constaté qu'il y avait coupure, il n'y avait pas d'alimentation en termes de courant. L'autorité étant saisie que la chambre froide n'est pas opérationnelle, il n'a pas hésité de mobiliser ses fonds immédiatement et c'est comme ça que vous voyez que la chambre froide, derrière nous, ça fonctionne. L'acquisition de cette chambre froide et sa fonctionnalité était vraiment capitale pour la province de l'Ituri, la partie sud.
Je vous l'ai dit dans les titres, le président suisse a quitté Bukavu ce matin après y avoir séjourné pendant 2 jours. Dans la matinée d'hier samedi, Alain Berset s'est rendu à l'hôpital de Panzi où il a écouté des témoignages des survivantes des violences sexuelles en période de conflit. À l'issue de cette rencontre, Alain Berset a insisté sur la responsabilité commune de faire changer les choses pour mettre fin à toute cette souffrance. Pour cela, il faudrait commencer par respecter la souveraineté territoriale de la RDC, a souligné le président suisse. Le condensé de sa visite au Sud Kivu avec Cynthia Bachizi.
La coopération suisse est beaucoup présente dans le Sud Kivu à travers divers projets dans les médias, la culture, la santé et la gouvernance politique. Elle alloue un budget en moyenne de 30 millions de dollars américains par an pour ce faire. Alain Berset a ainsi visité quelques-uns de ce projet. C'est notamment l'hôpital de Panzi, le centre CAPA, plus grand centre d'apprentissage au métier dans l'espace Kivu, ainsi qu'une centrale de distribution des médicaments. Après toutes ces visites, une conférence de presse a été organisée à l'hôtel Orchid de Bukavu. Alain Berset s'est dit touché par la résilience, la force à laquelle les populations de l'Est du pays font face à ces souffrances qui doivent cesser maintenant.
Et la cause à tout ça, c'est l'insécurité et les violences qui touchent les populations. Ça signifie de manière évidente et claire qu'il n'y a pas à tolérer de possibilité de tolérer des combats qui sont le fait de forces qui sont extérieures au pays. Et il faut bien comprendre que nous, ce qui nous intéresse énormément aussi, c'est bien sûr de pouvoir créer une transparence maximale sur ces éléments. On n'a pas lu. Je file naturellement là aux travaux et aux publications des experts de l'ONU. Notamment, ce rapport d'experts, eh bien, il y a eu des affirmations très claires sur le financement du groupe M23.
Pour rappel, Bukavu est le siège pays de la coopération suisse en RDC. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Et puis, comme représentant d'un pays membre du Conseil de sécurité, nous soutenons la MONUSCO dans l'accomplissement de son mandat. C'est un acteur essentiel pour la stabilité à l'est du pays et pour la protection des populations civiles. Cette mise au point est du président suisse au regard des récentes attaques contre la MONUSCO dans l'est du pays. Il s'est exprimé ainsi lors de la conférence de presse qu'il a tenue hier à Bukavu. Alain Berset s'est dit aussi conscient de la nécessité de faire un bilan transparent et honnête sur la mission onusienne afin de mieux appréhender l'avenir. Alain Berset, président suisse, dans ses propos recueillis par Cynthia Bachizi.
Comme représentant d'un pays membre du Conseil de sécurité, pour nous, la MONUSCO est un acteur important pour la stabilité à l'est du pays, pour la protection de la population civile. Et ce que je peux vous dire, c'est que la Suisse a évidemment soutient la MONUSCO dans l'accomplissement de son mandat. Nous avons été assez préoccupés d'ailleurs récemment par les campagnes de désinformation et les attaques qui ont touché la MONUSCO. Et dans la réponse humanitaire et de développement, nous considérons, la Suisse considère que la mission onusienne en RDC, en plus des nombreux acteurs non étatiques, bien sûr avec la société civile, joue un rôle qui est extrêmement qui est important. Il est clair aussi qu'il y a un bilan à effectuer sur le mandat de la MONUSCO. On doit se poser la question d'un bilan, de regarder un peu ce qui s'est passé, ce qui a été fait, ce qui a pu fonctionner, ce qui a pu aider et ce qui n'a pas fonctionné. Et puis ensuite, regarder où sont les intérêts des partis en présence, mais en n'oubliant jamais qu'au cœur de ces intérêts, il y a les populations civiles. Les populations civiles, et ça c'est un élément qui doit beaucoup nous occuper maintenant.
Direction l'Itouri. Nous retournons donc en Itouri. Le directeur de la prison centrale de Bounia plaide pour le désengorgement de cette maison carcérale qui héberge actuellement 2184 détenus, ce qui représente environ 5 fois la capacité initiale de cette prison. Cet effectif pléthorique a pour conséquence la difficulté de prise en charge alimentaire, médicale et la promiscuité des pensionnaires. Le directeur Camille Zonzi lance ici un appel aux autorités compétentes face à ces défis. Il est au micro des Ezekiel Mouzalia.
Moi, je lance souvent les cris d'alarme parce que la prison, c'est l'affaire de tout le monde. Que les gens viennent en appui avec ce qu'ils ont comme moyen, qu'ils viennent. Le dernier plaidoyer, c'est le problème d'espace. Vous savez que notre prison aussi avait une capacité de 500. Nous sommes maintenant 2184 détenus sur 3. Et ça demande beaucoup de moyens. Donc, s'il faut voir les budgets, voir les coûts sur le marché, c'est la quantité alimentaire qui baisse à tout moment. C'est dans ce sens-là que je laisse les cris d'alarme aux autres là qui ont des moyens. Ils peuvent venir nous assister à nous apporter les produits pharmaceutiques et aux besoins alimentaires aussi.
Journée mondiale contre l'esclavage des enfants, c'est ce dimanche 16 avril. Au Nord Kivu, le Parlement d'enfants de Boutembouloubé redénonce, je cite, l'exploitation économique des enfants par leurs parents ou d'autres personnes, fin de citation. Cette structure d'encadrement des enfants appelle à la responsabilité de tous afin de combattre cette pratique qui expose les enfants à plusieurs dangers et gâche plusieurs d'entre eux leur avenir, surtout sur le plan éducatif. C'est ce qu'a dit Rigen Bangae, président du Parlement d'enfants de Boutembouloubé. Il est au micro de Grévis Salomo.
Il y a l'esclavage moderne qui sévit, qui englobe aujourd'hui l'aspect de l'exploitation économique et sexuelle des enfants. Certains parents, c'est par irresponsabilité, ils n'ont plus la capacité de tout faire, ou même de répondre aux besoins des enfants, ils vont les envoyer en ville. Pour les enfants, les dangers sont vraiment énormes. D'abord, la santé elle-même les touchée. Lorsque l'enfant, toute la journée, il est en train de circuler dans toute la ville. Ce qui est sûr, c'est que ces enfants-là, ils se fatiguent. Ça ne permet pas que le lendemain, ils puissent peut-être bien travailler à l'école. Et notre risque, c'est pour ces enfants, ils sont à la portée vraiment de tout le monde, à la portée de toutes choses. S'ils font parler des enfants dans la rue même, c'est par là même que ça commence. Lorsque il est en ville, tout le temps, il est en contact avec les enfants dans la rue, il ne sera pas empêché demain ou après-demain d'embrasser ces mouvements et si être aussi dangereux pour sa famille et aussi pour toute la communauté. Il y a également, par exemple, pour les jeunes filles, sont exposées au viol. Enfin, donc, ce sont vraiment autant de risques que courent ces enfants et auxquels les parents doivent vraiment réfléchir encore une fois, de voir l'avenir de ces enfants. Nous réitérons que la place de l'enfant, c'est dans sa famille et aussi à l'école.
Actualité internationale.
Les combats continuent de faire rage ce dimanche 16 avril à Khartoum, la capitale du Soudan, pour la deuxième journée consécutive. Des violents affrontements opposant les camps des deux généraux aux commandes du Soudan depuis leur putsch en 2021 ont fait 56 morts parmi les civils et 600 blessés. Des tirs et des explosions ont été entendus dans la capitale tôt ce matin. La communauté internationale qui a assisté impuissante au coup d'État d'octobre 2021 n'est pas parvenue depuis à convaincre les généraux de signer un plan de sortie de crise. Elle multiplie toutefois les appels au cessez-le-feu. La Ligue arabe s'est réunie en urgence au Caire à l'appel de l'Égypte et de l'Arabie saoudite, deux acteurs influents au Soudan. En France, alors qu'une campagne de recrutement est en cours pour trouver 45 000 bénévoles nécessaires au bon déroulement des Jeux Olympiques de Paris, prévus du 26 juillet au 11 août 2024, un mot d'ordre inverse a été lancé, à savoir s'inscrire comme bénévole pour les Jeux Olympiques et ne pas s'y présenter. L'idée vient des collectifs opposés à la tenue de la compétition et souhaite ainsi en perturber l'organisation avec des fausses candidatures de bénévoles.
L'invité.
Il nous vient du Kasaï oriental. Clôture vendredi de la mission de la délégation de l'Agence nationale de l'assurance qualité des institutions supérieures de l'enseignement supérieur et universitaire, ANAC en sigle. C'est une structure publique qui est sous la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur. Lors de son séjour en Mbujimayi, la délégation de l'ANAC a lancé officiellement les auto-évaluations institutionnelles dans les institutions supérieures de l'ESU du Grand Kasaï. Pour en parler, nous recevons le professeur Constant Kiama, secrétaire exécutif national de l'ANAC, y s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, professeur Constant Kiama. Vous vous retrouvez en Bujimaï, au Kasaï oriental. Quel est le but de votre mission ici?
Eh bien, sous le haut patronage de son excellence, monsieur le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, la NAC-ESU a procédé au lancement officiel de l'auto-évaluation institutionnelle dans les établissements de la République démocratique du Congo à partir du pôle Grand Kasaï. Et la NAC-ESU a également procédé à la formation à l'assurance qualité. C'est la raison pour laquelle nous, on se retrouve à Mbujimaï, qui en fait a regroupé tous les grands Kasaï.
Et qui ont participé à cette formation?
D'abord, ce sont les présidents des conférences des chefs d'établissement. Pour les conférences qui venaient à Mbujimaï, ces conférences devaient être accompagnées par quelques chefs d'établissement et également par leur directeur des cellules d'assurance qualité.
Alors pourquoi la NAC a tenu à organiser donc ce programme d'auto-évaluation institutionnelle et de la qualité?
D'abord, la NAC-ESU, c'est une structure, c'est un organisme public doté de la personnalité juridique et sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. C'est à la demande d'abord de l'État congolais que nous devions nous doter d'une structure qui avait pour mission principale de promouvoir la culture de la qualité au sein de nos institutions d'enseignement supérieur et universitaire. Nous avons dit que nous devons d'abord nous regarder dans un miroir. Nous devons procéder, n'est-ce pas donc, à un état des lieux de nos établissements. Évidemment, ça c'est peut-être pas un état des lieux, mais à l'auto-évaluation de nos établissements. C'est ainsi que nous avons convenu avec tous les établissements que nous allons venir vous accompagner dans l'auto-évaluation parce que c'est le conseil scientifique qui approuve les programmes et qui produit même les référentiels. Alors, l'outil que nous avons utilisé pour les grands Kasaï, c'est le même outil que nous allons utiliser pour les autres conférences de chefs d'établissement. C'est ce que nous appelons le référentiel, qui en fait, c'est un ensemble des normes, des standards que nos établissements doivent nécessairement donc suivre et doivent s'auto-évaluer à partir de ces standards. Mais alors, ces standards regroupent un peu les domaines. C'est le domaine de la gouvernance, de la formation, le domaine de la politique de la recherche, de la vie à l'école, à l'institut, à l'université. Et au niveau de chaque domaine, il y a des champs, il y a des références, des critères, et les établissements vont donner également une cote. Ce qui est également intéressant, ça je vais quand même vous informer, que notre référentiel, nous l'avons digitalisé, numérisé, de telle sorte que les établissements, moyennant même un téléphone Android, un ordinateur connecté à l'Internet, ils peuvent aussi procéder à s'auto-évaluer à partir donc de cet outil que nous avons digitalisé.
Est-ce que tous les chefs d'établissement universitaires et des instituts supérieurs ont participé à cette formation pour connaître comment remplir ce référentiel?
Pour le Grand Kasaï, nous ne pouvons pas vous dire que tous les établissements étaient là, mais au moins tous les établissements, je pense que le Grand Kasaï était représenté par leur président de conférence. Mais nous avons convenu avec eux que nous ne pouvions pas appeler tous les établissements du Grand Kasaï. Mais nous avons dit qu'avec la formation que vous venez de recevoir, vous pouvez la partager avec vos collègues qui sont rentrés. Mais également, nous resterons en contact avec ces établissements. Ils ont créé une plateforme, le Grand Kasaï, que nous pourrons interagir avec eux.
Après cette étape d'auto-évaluation institutionnelle et de la qualité, quelle sera la prochaine étape?
Voilà, ça c'est vraiment une question très intéressante. Il ne suffit pas de vous auto-évaluer. Quand vous vous êtes auto-évalué, vous avez votre rapport d'auto-évaluation, vous formez une commission qu'on appelle des rémédiations, des résiliences. C'est-à-dire que vous avez repéré ou identifié vos forces, vos faiblesses, vos menaces, vos opportunités. À partir de ces points forts, ces faiblesses, vous allez donc vous améliorer. Aussitôt que vous allez vous sentir que, en fait, nous avons rempli toutes ces conditions, vous allez transmettre ces rapports d'auto-évaluation à la NAC-ESU, qui va maintenant venir, parce que la NAC-ESU contient en son sein, ou bien doit recruter les évaluateurs externes. Ces évaluateurs, nous pouvons les avoir dans le monde socio-professionnel, dans le monde académique, n'est-ce pas? Même aussi les évaluateurs extérieurs, étrangers, parce que les établissements vont commencer à s'auto-évaluer. Alors, une fois qu'ils ont transmis leur rapport d'auto-évaluation, ils vont solliciter, n'est-ce pas, donc l'évaluation externe au niveau de la NAC. La NAC va répondre, va leur dire que on se met d'accord avec ces établissements et ces évaluateurs viennent. Quand ils viennent, ils vont nécessairement donc se mettre à évaluer l'établissement via leur rapport d'auto-évaluation. C'est à ce moment-là que ces établissements seront accrédités. Parce que l'auto-évaluation institutionnelle, mais comme la NAC a accompagné, mais en interne, la NAC aussi peut procéder aussi à l'évaluation extérieure. Voyez que c'est l'internationalisation.
Merci beaucoup, professeur.
C'est moi qui dois vous remercier très sincèrement, Madame Esther.
Professeur Constant Kiama, secrétaire exécutif national de la ANAC. ANAC, c'est l'Agence nationale de l'assurance qualité des institutions supérieures de l'enseignement supérieur et universitaire. Il répondait aux questions de Esther Ndalafina. C'est la fin de ce journal coordonné par Piro Elamenji, supervision de Alain Irung Mouchinj, Polydor Basunga à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.